Bonjour Philippe, comment ça va?
Bonjour François, ça va très bien,
et
toi?
Ça va bien, je reviens de longues vacances et puis faut que je retrouve mes repères un peu là, mais on va y arriver. Des vacances, ça fait toujours du bien, puis quand on vient, ben, on est heureux de se remettre au boulot et de reprendre le collier, comme on dit. Aujourd'hui, on parle de jeux. Alors, c'est amusant.
Ben oui, T'es de retour de vacances, donc comme tu dis, reprendre les repères, ben je trouve que ça tombe tellement bien pour notre premier sujet où on va parler de jeux, mais de représentation spatiale.
Oh.
Puis je propose de commencer par un peu définir là, qu'est-ce qu'on entend par ça ici. Donc, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la capacité à se représenter dans notre relation à l'environnement, finalement. Comment on s'y dirige, comment on se déplace dans l'environnement qui nous entoure. Et surtout, bien, de s'ajuster, évidemment, avec les imprévus, les conditions qui changent.
Oui, parce qu'à partir du moment qu'on se déplace dans l'espace, bien, c'est un peu comme si nous, on ne bougeait pas et que le décor bougeait, là, ou vice-versa.
Oui, c'est ça. Tout à fait. Puis évidemment, pour faire ça, ben on se sert de nos sens, hein, le l'ouïe, le toucher, l'odorat, mais un des sens les plus importants dans ça, c'est celui de la vue,
exact.
La vision qui nous permet de se renseigner sur l'environnement qui nous entoure.
Nous n'avons pas la vue, qu'est-ce qu'on fait?
Ah, c'est ça, c'est justement, prenons l'exemple des gens qui ont des déficiences visuelles, ben c'est pas évident, hein. Puis eux autres, ben ils vont souvent mettre en place une stratégie qui est la mémorisation, par exemple, des trajets. Apprendre par cœur, de se déplacer d'un point A au point B. Donc, c'est bien correct, mais évidemment, ça vient avec un petit inconvénient, c'est celui de ne pas suffisamment exploiter le développement des capacités de représentation spatiale. Donc,
Puis ça se peut aussi que, notre trajet habituel ne soit pas le même parce qu'il y a un chantier, il y a quelque chose qui cloche, c'est pas ça. La routine habituelle. Puis deux, ben, à partir du moment que on veut explorer puis découvrir de nouveaux endroits, ben là, il y a toute la question de réapprendre de nouveaux trajets.
C'est exactement ça. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là que des chercheurs français, des chercheurs de l'Institut des jeunes aveugles, c'est situé à Toulouse, en France, eux autres, ces gens-là se spécialisent dans la conception d'outils ludiques pour permettre aux jeunes personnes, aux personnes, en fait, de développer justement un peu mieux cette capacité-là de représentation spatiale.
Donc, c'est en jouant qu'on développe nos facultés de perception.
Absolument. Et je vous présente donc trois éléments qu'ils ont mis en place, en commençant d'abord par une petite maquette qu'on appelle la Tangible Box.
Oui, ben c'est sur la Tangible Box. Oui, voilà.
Oui, c'est ça, à la française. C'est ça. Essentiellement, un plateau sur lequel on a un labyrinthe. Un labyrinthe qui peut être construit simplement avec des petits blocs de construction, des blocs de type Lego. Et on a un labyrinthe, on a un petit pion. La personne malvoyante, la jeune personne, doit apprendre à déplacer le pion, mais pour ce faire, ben, elle va se servir, par exemple, la plateforme va émettre certains sons à certains moments, des sons qu'on peut entendre dans la vie quotidienne de tous les jours. Ça peut sembler banal, mais tout ça, c'est dans l'objectif de justement permettre à l'enfant de développer cette capacité-là à se représenter dans l'espace. Parce que si tu me le permets, je vais juste introduire une petite parenthèse en disant que pour les personnes bien voyantes, en fait, je commencerai plutôt par les personnes malvoyantes, la perception est souvent, l'environnement est souvent de type égocentré. Ça veut dire que la personne, si je reprends l'exemple de la boîte, le tangible box, la personne se voit comme le petit pion dans le labyrinthe. Et ça semble banal, mais c'est très différent de la perception qu'ont les personnes voyantes.
Oui, je comprends, parce que la perception va être un peu comme des cercles concentriques. Il va y avoir qu'est-ce qu'on peut toucher si on tend les bras autour de nous.
Oui.
Qu'est-ce qu'on va toucher si on utilise notre canne puis on ajoute un 3-4 pieds? Qu'est-ce qu'on va toucher si on fait deux pas devant ou deux pas derrière ou ainsi de suite?
Oui. Donc, les personnes voyantes vont davantage avoir une vision, une perception de l'environnement de manière comme à vol d'oiseau, comme si on survolait
le plan. Oui.
Exactement. Donc, le but de la Tangible Box, c'est un peu d'amener les personnes à développer une capacité à se représenter l'environnement, un peu comme à vol d'oiseau, d'une certaine façon.
D'accord.
Okay. Alors, deuxième possibilité, un jeu de société, simplement, qu'on appelle Rituel sur le fleuve. Un plateau de jeu sur lequel on doit déplacer un petit bateau le long d'un cours d'eau. Et ce plateau-là est connecté à un ordinateur. Et évidemment, tout au long de la partie, ben, l'ordinateur va peut-être produire des sons, va peut-être questionner les participants ou leur proposer une énigme.
Ou les challenger avec un obstacle.
Absolument. Ouais, absolument.
Voilà. Et puis quand c'est un jeu avec un ordinateur, puis on veut faire embarquer les enfants dans le truc, ouais. Ben là, ça, c'est magique. Ouais. Hein, voilà.
Exact. Puis l'avantage de ça, c'est qu'on stimule les représentations spatiales plutôt que d'y aller seulement par la mémorisation. Alors, oui. On ne peut pas le faire, là, le jeu change tout le temps.
Oui, parce que le premier, c'était quand même une maquette, donc on pouvait éventuellement mémoriser tous les raccoins. Mais là, sur un ordi, ben là, on peut imaginer que l'environnement peut tout le temps changer, oui.
Exactement. Puis un dernier petit élément qu'ils ont mis au point, c'est une tablette tactile. Donc, quelque chose qui ressemble un peu à un iPad, un peu plus gros quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est la tablette produit des dessins en relief. Comme, par exemple, on pourrait avoir une carte du monde où les continents sont légèrement surélevés par rapport aux océans. Évidemment, on est dans le toucher ici. Les jeunes apprenants vont apprendre à explorer l'environnement, mais avec le sens du toucher. Donc, c'est encore une fois une manière d'amener à développer un sens de la représentation spatiale différemment de ce qu'ils vont peut-être naturellement avoir tendance à faire, c'est-à-dire y aller par mémorisation.
Alors ça, ce sont tous des jeux, des choses qui ont été... créé en France à l'Institut des jeunes aveugles. Alors, peut-être que ça va traverser l'Atlantique et qu'on va y avoir droit sous l'arbre de Noël.
Pourquoi pas? C'est bien. Donc, ça clôt ce sujet-là, en fait.
Les jeunes, puis là, le prochain sujet, moi, ça me touche un peu parce que je connais une jeune fille qui, au moment de son... dans sa croissance, quand elle avait 7-8 ans, elle avait des problèmes de dos sérieux. Mm-hmm, elle était obligée de porter un corset et c'était pas de la tarte.
Non, exactement, c'est ça. Donc, on est dans un sujet qui parle ici de la scoliose, comme tu l'as un peu bien introduit, c'est-à-dire une personne qui présente une déformation au niveau de la colonne vertébrale. Là, on a à peu près tous vu ça, une image radiographie où on voit la colonne un peu en forme de S étirée.
En tire-bouchon, ainsi de suite. Parce que la déformation n'est pas que gauche-droite, elle peut faire comme
absolument.
Ça revient vers l'intérieur ou ainsi de suite.
C'est ça. Elle se déforme en trois dimensions, comme tu le mentionnes. Ça touche beaucoup les adolescents, plus les adolescentes que les adolescents. Il y a plusieurs causes possibles, génétiques, neurologiques, posturales même. Mais dans bien des cas, on parle de scoliose idiopathique. Donc, c'est une scoliose pour laquelle on n'a pas vraiment identifié la cause qui mène à ça.
Mais il n'en demeure pas moins qu'elle est bien réelle.
Absolument, absolument. Mm-hmm. Tu l'as bien mentionné, là, ce qui peut arriver dans bien des cas, c'est que la personne devra porter un corset, qui est une espèce de, on va dire...
Un carcan, un corset, c'est un corset. Hein? On se met ça autour de la taille pour obliger de faire une... de se tenir droit.
Stopper la progression, tout ça, bien, ça demeure que c'est un objet qui est plutôt inconfortable, peut-être pas super esthétique également.
Non plus, puis au moment de l'adolescence, on peut penser que c'est pas non plus un gros succès, là.
C'est ça.
Il faut porter ça 20-23 heures par jour. Alors, à part de prendre sa douche, on est pris avec.
On est pas mal pris avec ça. Fait que souvent, ça décourage les personnes de le porter. Oui, oui. Puis le taux de succès n'est pas toujours au rendez-vous. Ça nous appelle à parler d'une innovation fort intéressante, d'un jeune chercheur québécois là, sorti du génie mécanique. Il s'appelle Émeric Guy, un jeune homme fort sympathique d'ailleurs, qui lui s'est dit, tiens, on va essayer de revoir un peu la méthode de fabrication des corsets. On va essayer de faire quelque chose de différent cette fois-ci. Il faut bien mentionner que ce qu'il amène comme innovation, c'est le fruit de plusieurs travaux de recherche, plusieurs années de recherche avec des chercheurs de Polytechnique, des chercheurs de Sainte-Justine également. Et essentiellement, donc, on a revu la méthode de fabrication ici du corset. Je la décris rapidement en disant qu'on parle de radiographie. Avec ça, on est capable du patient. Hein, on produit un jumeau digital tout à fait identique au patient.
D'accord.
C'est très intéressant.
Un modèle tridimensionnel virtuel. Oui.
Exact. Puis ensuite, on teste plein de possibilités de corsets, là, toujours en mode virtuel. On essaie de trouver le corset le mieux ajusté possible au corps du patient.
Oui, parce qu'il existe chaque corps est différent, puis en même temps, il existe une certaine gamme de corsets.
C'est ça. Mm-hmm. Fait que le logiciel nous permet d'identifier le corset le plus optimal qu'on va par la suite pouvoir imprimer en 3D. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on y ajoute, tant qu'à y être, des capteurs de pression. Ça, là, c'est expressément fait pour bien suivre l'évolution de la scoliose une fois que la personne le porte. Là, on est vraiment dans du monitoring à point par point, là, en tout moment.
Tout à fait, oui. Puis ça, surtout qu'on peut penser qu'au fur et à mesure de la correction de la scoliose au fil du temps, ben, il va peut-être falloir changer le corset puis qu'il ne soit plus exactement le même parce que la posture, on l'espère, va changer.
Oui, absolument. Et puis, ce que le chercheur espère éventuellement développer avec ça, c'est une petite application qu'on peut mettre sur le téléphone dans le but de faire en sorte que le patient, on puisse le stimuler, lui donner des défis, un peu des objectifs à atteindre pour le motiver à porter le corset. Il faut dire que le corset est beaucoup plus esthétique, beaucoup plus agréable à porter également.
Bien, ça va éviter la tricherie aussi, ça c'est bien.
Oui.
Parce que l'adhésion au plan de traitement, c'est important. Si on ne le fait pas, ça ne marche pas, mais on peut comprendre que ça rebute...
Exactement. C'est québécois, puis ça a plein, un bel avenir prometteur, ce type de nouveau corset, la nouvelle génération.
Ah, c'est bien ça. Émeric Guy qui nous a...
Oui, un nom à retenir.
Voilà. À retenir aussi, on parle souvent dans avec la génétique, il y a eu beaucoup de progrès dans les 5-8 dernières années. Puis les troubles du spectre de l'autisme, longtemps, on n'y voyait pas une cause génétique, mais ça, maintenant, ça a été plutôt cerné. Là. Il semblerait qu'il y ait une part importante de génétique dans l'apparition de troubles du spectre de l'autisme. Et là, maintenant, non seulement on a cerné ça, mais ça vient du père.
Absolument, c'est ça. Donc, c'est une recherche très, très récente par des chercheurs américains qui ont analysé le génome de plusieurs familles, là, des milliers de familles, puis ils en sont venus à la conclusion suivante. La transmission génétique du trouble du spectre de l'autisme est davantage causée par le père que par la mère.
D'accord.
Mais il y a un bémol très important à retenir, puis ça, je veux absolument le mentionner, c'est qu'on est dans un... C'est lorsqu'il y a au moins deux enfants qui sont atteints du trouble du spectre de l'autisme. Autrement dit, si on a seulement un des enfants dans la fratrie qui est atteint du trouble du spectre de l'autisme, on observe moins cette corrélation.
Ben, parce que ça se peut aussi être une mutation génétique qui a lieu au moment de la conception. Donc, ce n'est pas nécessairement une transmission héréditaire. Ça peut être l'apparition de troubles du spectre de l'autisme peut survenir à la suite de mutations génétiques immédiate et isolée dans ce sens-là. Donc, parce que les maladies dites héréditaires, parfois ne le sont pas.
Ben oui, c'est ça, exactement. C'est sûr que là, c'est tout un sujet en soi. Mais ici, c'est comme une première fois qu'on observe une certaine corrélation qu'il y aurait entre le génome du père et la transmission génétique de ce trouble-là chez l'enfant. Donc, ça... C'est nouveau, puis là, on essaie d'explorer. On ne connaît pas la cause. On est vraiment dans les hypothèses. Qu'est-ce que ça pourrait être? Pourquoi c'est comme ci, comme cela? Fait que c'est intéressant de voir que, peut-être que c'est la faute à papa si on a le TSA.
Ouais, mais ça... faut pas pointer du doigt, mais pendant longtemps, on avait tendance à pointer les mères pour toutes sortes de choses. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai lu quelque chose en week-end, comme quoi une partie... la transmission du gène défectueux BRCA1, qui est le gène défectueux qui est souvent relié au cancer du sein, vient plus souvent du côté paternel que maternel. Là aussi, souvent, il y avait des patientes qui étaient traitées pour des cancers du sein, puis dont la mère avait peut-être eu le cancer du sein ou la grand-mère, mais en fait, on s'aperçoit que c'est par la filiation paternelle que ça... que ça découle.
Un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça.
Ben oui, en effet, c'est un peu comme ça, on peut le dire. Ben voilà qui fait le tour. Merci, Philippe. Ouais. On va, je l'espère, se reparler en septembre.
Avec grand plaisir, cher François. Et ça va me faire plaisir de revenir avec de
nouveau. Ben voilà, tout à fait, parce que l'actualité scientifique, là, ça déboule tout le temps. Puis c'est porteur d'espoir de savoir que souvent des choses qui nous semblent... insolubles aujourd'hui, là, trouveront éventuellement une correction, un ajustement, ou parfois c'est une grande découverte là, qui change tout. Ben, merci.
Ben, voilà, ça me fait plaisir.
Bon été.
Pareillement à toi, François.